dégustation de sa galette à la crème de marron. Alors ça, c'est merveilleusement bien délicieux. Jouez aussi avec Laurent Mariotte en devinant le bruit de la cuisine. Pour gagner des cadeaux, pour participer, envoyez cuisine par SMS au 739 21 75 centimes plus coût du SMS. 3 SMS pour s'inscrire. À bientôt. Belle soirée sur Europe 1. Il est 22h.
Europe 1 Nuit Week-end. Rudy Saada.
Un influenceur algérien de 25 ans sous OQTF arrêté ce matin à Brest pour incitation à la haine. Zazou Youssef, c'est son pseudonyme, avait appelé sa communauté d'internautes à commettre des attentats en France. Un individu sous OQTF. Pourquoi ces obligations de quitter le territoire français sont-elles si difficiles à exécuter? Explication dès le début de ce journal. Plus de peur que de mal à la prison d'Arles après une prise d'otage. Pendant 5 heures, un détenu équipé d'une arme blanche artisanale a retenu des membres du personnel. Il réclamait un changement d'établissement. Il s'est finalement rendu. Il n'y a pas eu de blessés. Les agriculteurs passent des paroles aux actes dans l'attente d'un rendez-vous avec François Bayrou. La coordination rurale appelle à la mobilisation dès ce dimanche à Paris et menace de blocage. Vous entendrez le représentant d'un syndicat agricole. Moins de vin mais plus de bière. Les habitudes de consommation des Français évoluent selon une étude de France Agrimaire. Si dans l'ensemble les Français boivent moins, ils boivent plus de bière alors que la consommation de vin, elle, a chuté de 20% en 15 ans. Explication en fin de journal.
Europe 1.
Il avait appelé sa communauté à commettre des attentats en France. L'influenceur Zazou Youssef a été interpellé ce matin à Brest. L'homme âgé de 25 ans est suivi par près de 400 000 followers sur TikTok le soir de la Saint-Sylvestre. Ce ressortissant algérien sous OQTF depuis le mois d'avril avait clairement appelé à s'en prendre à ses opposants, aux opposants au régime algérien. Tirer sur eux, il faut faire parler la poudre, avait-il déclaré dans des vidéos. Il a été interpellé pour incitation à la haine et apologie du terrorisme. Par ailleurs, cet après-midi, deux hommes étaient jugés pour des vols commis pendant la nuit de Noël et hier. Dans les deux cas, il s'agit d'hommes de nationalité algérienne visés par une OQTF n'ayant pas encore été exécutés. Cela relance inévitablement le débat sur l'efficacité de cet outil. Il faut le dire, Youen Malek, que l'exécution des OQTF reste un exercice complexe.
Oui, à cause d'un document essentiel, le laissez-passer consulaire. Quand la France prononce une obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger, la personne en question ne peut en fait pas être renvoyée immédiatement. Il faut d'abord que son pays d'origine lui délivre ce fameux laissez-passer, qui revient en fait à identifier officiellement la personne comme l'un de ses ressortissants. Et certains pays ralentissent au maximum cette procédure, pointé il y a quelques semaines sur notre antenne Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie.
Leur pays d'origine n'a pas forcément dû les voir rentrer parce que c'est une jeunesse turbulente qui sera au chômage, qui va faire de l'agitation, etc. Donc les pays d'origine préfèrent les voir en France. Il y a à peu près 7% seulement des OQTF, des 135 000 OQTF annuels qui sont exécutés, parce que d'une part, il y a toutes les procédures internes françaises, mais il y a aussi les procédures extérieures, internationales.
Des procédures internationales dont l'efficacité varie donc beaucoup en fonction des relations que la France entretient avec le pays concerné. Ces derniers mois, par exemple, les relations franco-algériennes sont au plus bas entre la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et l'affaire Boualem Sansal. Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, a même qualifié l'écrivain d'imposteur envoyé par la France dans un discours à la Nation fin décembre. Autant dire que les laissez-passer consulaires algériens n'arrivent que très lentement dans les préfectures françaises.
Youen Malek. La prise d'otage aura duré 5 heures. Un détenu a retenu un surveillant et 4 soignants avant de se rendre. Il souhaitait être changé d'établissement et aurait tenu des propos confus. Le raid était présent sur place. Récit de cette longue journée d'angoisse avec le correspondant européen dans les Bouches-du-Rhône, Stéphane Burgat.
C'est après une blessure lors d'une bagarre qu'il a déclenchée que Erving, 37 ans, se fait admettre à l'infirmerie. Sous ses bandages, il a dissimulé des poinçons de confection artisanale. Débute alors cette longue prise d'otage qui prend fin grâce au travail des négociateurs, travail salué par le préfet de police Pierre-Edouard Colliex.
Les choses se sont bien terminées, mais elles auraient pu être très dangereuses en raison de l'armement et en raison du profil du preneur d'otage. Le preneur d'otage avait une attitude assez incohérente, mais néanmoins exprimait le souhait de sortir de prison.
Les représentants syndicaux des surveillants pénitentiaires comme Camille Beck de la CGT ne cachent pas leur colère. Ils se disent démunis face à la prise en charge de détenus au profil psychiatrique.
On n'est pas adapté à ce genre de situation-là et à gérer ce genre de personnalité. C'est pas uniquement la maison centrale d'Arles, les profils psy, c'est une difficulté pour tous les établissements qui sont touchés par ce phénomène. On devrait bénéficier à minima de formation si effectivement on doit subir en tout cas les personnalités psy.
Les personnels pénitentiaires pris en otage, eux, sont sains et saufs, mais bénéficieront d'un suivi psychologique après le traumatisme qu'ils viennent de subir. Arles, Stéphane Burgat, Europe 1.
Jean-Noël Barrot était à Damas au nom de l'Europe et de la diplomatie européenne en compagnie de son homologue allemande. Tous deux représentaient donc la diplomatie européenne au programme des rencontres avec le responsable du pouvoir islamiste en place. Un peu moins d'un mois après la chute de Bachar al-Assad, le chef de la diplomatie française a plaidé pour une transition pacifique et inclusive et pour la destruction des stocks d'armes chimiques accumulés par le précédent pouvoir. Du côté de la ministre allemande, on prévient, l'Europe ne financera pas la mise en place d'institutions islamistes dans le pays. Pour Mohamed Sifaoui, journaliste et spécialiste des mouvements djihadistes, il faut être très prudent avec ce régime qui reste un régime islamiste. Il était au micro de Stéphanie Demuru dans Europe 1 Soir Week-end.
Là, il y a une vraie discrimination, c'est-à-dire il y a une attention particulière qui est accordée à travers le fait de non seulement serrer la main au ministre français des Affaires étrangères et à le regarder dans les yeux, mais à refuser de serrer la main à la ministre allemande des Affaires étrangères et, si vous vous regardez bien les images, à ne pas la regarder dans les yeux. Parce que, justement, les islamistes considèrent qu'une femme, il ne faut pas porter un regard sur elle pendant plus de 2 secondes. Celui qui est un ancien émule d'Al-Qaïda, etc., refuse de serrer la main à une ministre qu'il reçoit. Et évidemment, le symbole de ce qu'est l'idéologie qui est portée par cette personne. Ça, c'est une réalité.
Le journaliste essayiste Mohamed Sifaoui, spécialiste des mouvements djihadistes, il était au micro de Stéphanie Demuru.
Europe 1 Nuit Week-end. Rudy Saada.
22h07 sur Europe 1. 86% des Français estiment qu'Emmanuel Macron devra nommer un autre Premier ministre en 2025. C'est un sondage Odoxa Backbone Consulting pour le Figaro publié ce soir qui révèle ce chiffre. Après, donc le premier conseil des ministres du gouvernement Bayrou, le nouveau locataire de Matignon, sous la menace constante d'une censure, a appelé son équipe à la solidarité et au courage. Parmi les sujets brûlants, François Bayrou va devoir répondre à la colère du monde agricole. La coordination rurale appelle à la mobilisation et ce, dès ce dimanche à Paris. Le deuxième syndicat agricole de France souhaitait s'entretenir avec le Premier ministre d'ici la fin de semaine, mais le locataire de Matignon a finalement proposé une réunion le 13 janvier prochain, ce qui est tard. Alexis Bourdon, bonsoir. Après plus d'un an de crise agricole en France, à quoi pourraient ressembler ces manifestations à Paris?
Eh bien, la coordination rurale veut monter vers Paris, mais elle ne souhaite pas bloquer la ville. C'est du moins ce qu'affirme le syndicat par l'intermédiaire de Patrick Legras. Pourtant, le porte-parole de la CR redoute une mobilisation mouvementée avec de possibles débordements.
Déjà, ça ne sera pas une manifestation d'une journée. Si nous sommes aussi pressants, c'est que nous avons des agriculteurs qui n'ont plus rien à perdre, qui sont en redressement judiciaire. Et ces gens-là vont faire ce qu'ils ont envie parce que on n'a pas la main dessus. Ils sont pas forcément de la coordination rurale. Mais c'est dommage parce que on ne saura pas les cadrer. Ça sera la responsabilité du gouvernement puisqu'il a décidé de ne pas prendre 2 heures pour accepter les revendications que l'ensemble des agriculteurs souhaitent.
Pour le moment, une centaine de tracteurs est attendue ce dimanche dans les rues de la capitale. Cela pourrait être plus puisque les bonnets jaunes espèrent toujours être rejoints par d'autres syndicats pour grossir les rangs. Du côté des revendications, la coordination rurale met l'accent sur la surtransposition des normes. En effet, la CR souhaite que les lois françaises s'alignent sur les réglementations européennes.
Alexis Bourdon. On évoque justement la filière viticole. Les tendances de consommation d'alcool des Français évoluent. Ils boivent moins 20% sur les 15 dernières années, mais ils boivent aussi différemment. Aurélien Fleureau, sur les 4 dernières années, les parts de marché perdues par le vin ont presque tout été récupérées par une autre boisson, la bière.
Oui, c'est une tendance de fond qui se confirme année après année. Et sur la période 2019-2023, les vins représentaient 40% des volumes d'achat de boissons alcoolisées d'un ménage français pour sa consommation à domicile. C'est 18 points de moins que sur la période 2007-2011 et dans le même temps, pour la bière, eh bien cela donne plus 16%, une évolution que constate également Mathieu Carpentier du cabinet spécialisé dans la consommation Circana.
Quand on compare à 2019, 46,8% des volumes de boissons alcoolisées étaient réalisés par les bières et 34,4% étaient réalisés par les vins tranquilles. En 2023, c'était 31,5% pour ces vins tranquilles et plus de la moitié des volumes, 50,3% pour les bières épanachées. Donc on voit bien se dessiner cette tendance d'évolution d'achat des Français sur les boissons.
Plus faible teneur en alcool, moins cher, plus varié qu'avant grâce à l'essor de microbrasseries, la bière a de sérieux arguments pour renforcer cette tendance à nouveau en 2025.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Après le champagne, les bûches et les chocolats de Noël, eh bien, c'était pas le moment de prendre une pause. Place ce week-end à la galette des rois. Charles Bouchain s'est rendu dans la boulangerie, la fabrique au gourmandisme de Lionel Bonamy. Elle s'est vue décerner début décembre pour la deuxième fois le prix de la meilleure galette du Grand Paris.
Ah, je crois que j'ai tombé sur la fève.
À peine sorti du four, Lionel Bonamy contrôle la parfaite cuisson de ses galettes.
Déjà, c'est magnifique. On est garni, vous avez vu là, 1 cm du bord. Donc là, vous n'avez pas que de la pâte au bout. Dessous, là, on est bien croustillant. Ah bah là, on va se faire plaisir.
Le boulanger pâtissier l'assure, il n'a pas de recette magique. L'important, c'est d'avoir des produits locaux de qualité.
Il y a de la poudre d'amande fraîchement broyée, ça c'est important. Travailler avec un beurre AOP, avec les moulins familiaux proches de Paris, avec des farines régulières et de très bonne qualité. On va les contrôler. Je vois que la dorure, ça se passe bien du côté de Benta. Un coup dans un sens. Et un
avec
coup
ce prix de la meilleure galette du Grand Paris, Lionel Bonamy s'attend à voir plus de gourmands dans sa boulangerie et a donc embauché un nouvel employé.
Il y a au moins 7 ou 8 personnes qui touchent la galette avant qu'elle parte chez le client. C'est vraiment toute l'équipe qui est en mode galette.
Et elle a intérêt à l'être pour produire près de 300 galettes des rois par jour.
Je ne suis pas poli, mais tant pis, je croque dedans. Je vous invite à en manger un morceau aussi. À la vôtre. Allez, meilleur vœu.
Voilà ce reportage du très courageux Charles Bouchain. Le sport avec le début du Dakar qui a été, le départ du Dakar, pardon, qui a été donné ce matin. Il s'était lancé depuis Bicha en Arabie Saoudite pour cette 47e édition. 440 véhicules sont engagés dans cette boucle de 8000 km. Et puis ce week-end marque également le retour de la Ligue 1 avec Nice-Rennes qui a débuté à 21h à la mi-temps. Les Niçois mènent 3 buts à 1. On passe maintenant à la bourse.
Retrouvez Rendez-vous Bourse avec Fortunéo. Fortunéo, j'aime ma banque.
Le CAC 40 a flanché de 1,51% aujourd'hui. Il passe sous le seuil des 7300 points, 7282 points pour être précis. À l'issue donc d'une semaine de 4 jours écourtée en raison du nouvel an, le Dow Jones est en très légère hausse près de la clôture, plus 0,74%. Le Nasdaq se porte bien, plus 1,66% ce soir.
Et oui, on a un front chaud qui est arrivé dans le sud-ouest aujourd'hui, donc avec...
Avant d'écouter Marlène Duré, on va clôturer cette page bourse.
C'était Rendez-vous Bourse avec Fortunéo. Meilleure banque pour sa tarification bourse sur Euronext. Fortunéo, j'aime ma banque. Source Moneyvox mai 2024, voir détails des conditions tarifaires sur fortunéo.fr. L'investissement en bourse présente un risque de perte en capital.
Eh oui, on était très pressé d'entendre Marlène Duré avec ses prévisions météo. Marlène, le temps va continuer malheureusement à se dégrader demain.
Et oui, on a un front chaud qui est arrivé dans le sud-ouest aujourd'hui, donc avec de la pluie, de la douceur aussi. Et ces pluies vont progresser demain vers le nord et l'est du pays. Alors elles arriveront en Haute-Normandie, en Ile-de-France et en Champagne seulement en soirée. Et je rappelle qu'il fait froid sur la moitié nord. Ce qui veut dire qu'en arrivant, en se heurtant à cet air froid, eh bien les pluies pourront devenir verglaçantes. On pourra voir aussi tomber temporairement quelques flocons. Et puis la pluie en tombant sur des sols gelés, eh bien ça glisse. Voilà, risque de verglas, soyez très prudents. Sur la route des retours de vacances, si vous vous trouvez sur des petites routes entre la Normandie, le nord de la région Centre-Val de Loire, la région parisienne et le Grand Est. À signaler aussi demain matin, vous qui êtes du côté de la Savoie, le risque d'avalanche qui reste élevé, toujours sur les mêmes massifs, hein, de la Haute-Tarentaise, de la Vanoise, du Beaufortin. Des brouillards givrants aussi au petit jour dans le Centre-Est. Quant aux températures, beaucoup de gelées, elles seront quasi généralisées jusqu'en Bretagne, hein, demain matin. Il fera jusqu'à moins 6 dans le Nord-Est. Et puis l'après-midi, hormis une petite hausse dans le sud-ouest, eh bien elles seront plutôt en baisse ailleurs par rapport à aujourd'hui. Comptez entre 1 et 4 degrés sur un grand quart nord-est, 4 à 6 au nord-ouest, 7 à 13 du sud-ouest vers la Provence et entre 12 et 19 en Corse.
Merci Marlène Duré, c'est la fin de cette édition. On retrouve tout de suite Ombline Roche.
Merci Rudy Saada, on vous retrouve à 23h pour les informations. Tout de suite, les années top 50.
La grande famille Europe 1 vous souhaite une belle année 2025. Europe 1, les années top 50.
Aubine Roche.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour votre nouveau rendez-vous musical du soir. On célèbre les années top 50 à l'occasion des 70 ans d'Europe 1. On a décidé de remettre au goût du jour l'une des émissions cultes de la station, le top 50. On a remixé, vous l'entendez derrière moi, un petit peu le générique, on l'a remanié avec amour. Mais ne vous inquiétez pas, on n'a pas touché une seule note, un seul mot au tube des années 80 et 90. Et on va prendre plaisir à les réécouter ce soir. Au programme du jour, ces chansons qui ont fait oublier les titres originaux, les premières versions, les premiers enregistrements. Car même si les années 80 et 90 étaient riches en création musicale, certains artistes ont eu la bonne idée de ressortir des titres des décennies précédentes pour leur donner une seconde vie, au point de faire oublier les versions originales. C'est notamment le cas du groupe de New Wave, Soft Cell, qui sort cette pépite de pop synthétique Tainted Love dans les années top 50 sur Europe 1. Avec Tainted Love en 1981 sur Europe 1, le duo anglais a eu du flair en réinterprétant cette chanson soul de la chanteuse américaine Gloria Jones avec des instruments électroniques. Ah bah tiens, je propose d'écouter quelques notes de la version de Gloria Jones sortie en 1964. Vous allez noter les différences. Une bonne chanson reste bonne, hein, peu importe ses arrangements. Et vous venez de l'entendre, hein, c'est le cas de ce tube Tainted Love.
Europe 1, les années top 50.
Aubline Roche.
Un autre tube des 60s qui a connu une seconde gloire 20 ans après sa sortie. Vous avez forcément déjà bondi sur la piste de danse, chanté très fort sur I Can't Take My Eyes Off You des Boys Town Gang, l'un des plus gros tubes de l'année 1982. Je vous propose de recommencer ce soir dans votre salon Can't Take My Eyes Off You sur Europe 1. Too good to be true. Eyes Over You version Boys Town Gang dans les années top 50 sur Europe 1. On doit l'original à Frankie Valli du groupe The Four Seasons. Il avait connu un énorme succès à la fin des années 60, mais le groupe disco Boys Town Gang en a fait un hymne de discothèque imparable sans jamais rencontrer le même succès. De très nombreux artistes, de très nombreux groupes ont repris la chanson. Parmi eux, on retrouve notamment Lynn Renault. Oui, Lynn Renault a repris cette chanson. Gloria Gaynor, Lauryn Hill ou encore Diana Ross et les Supremes.
Les années top 50, Ondine Roche sur Europe 1.
Ah ben justement, ça tombe bien d'ailleurs, puisqu'on parle de Diana Ross accompagnée de ses chanteuses, de ses Supremes, la dernière chanson de notre sélection du soir sur Europe 1. Et justement, un titre de ce girls band américain des années 60. En 1966, elle sortait l'un de leurs plus grands succès, You Keep Me Hanging On. Écoutez, ça faisait ça. Plus tard, l'anglaise Kim Wilde cherche un single fort pour son nouvel album Another Step. Ce sera sa reprise survitaminée de You Keep Me Hanging On qui va décrocher la 6e place au top 50. Nos nuits avec Kim Wilde dans les années top 50 sur Europe 1. Wild avec You Keep Me Hanging On sur Europe 1, un tube de 1986. Kim Wild, qui n'a pas été la première artiste anglaise à reprendre un succès des Supremes, puisque Phil Collins s'était également prêté à l'exercice avec You Can't Hurry Love quelques années plus tôt et avec beaucoup de réussite également. Mais ça, mes amis, c'est une histoire pour un autre jour.
Europe 1, les années top 50.
Aubine Roche.
Les petits clous, c'est tout pour nous pour ce soir. On se retrouve sans faute demain et dimanche pour notre immersion musicale au cœur des années 80 et 90. Car oui, les années top 50 continuent même le week-end. On sera ensemble de 21h à 22h pour une heure de musique culte pendant lesquelles on va revenir encore plus en détail sur les chansons qui ont marqué la fin du 20e siècle. Très belle soirée qui se poursuit sur Europe 1 avec Valérie Darmon et la libre antenne d'Europe 1. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Omblin.
Europe 1, la libre antenne.
Valérie Darmon.
Et bienvenue dans votre libre antenne sur Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Je suis ravie de vous retrouver. Et avant tout, je vous souhaite à tous une année 2025 durant laquelle vous vous sentirez accompli. Mettez tout ce que vous voulez dans le terme d'accomplissement ou de réalisation. Comme tous les week-ends, Juliette et Nicolas sont à mes côtés pour prendre vos appels au standard au 01 80 20 39 21 et pour recueillir vos témoignages par SMS au 739 21 précédé du mot nuit. Vous pouvez nous joindre, vous le savez aussi, sur la page Facebook de l'émission et par mail à l'adresse libreantenne@europe1.fr. Tristan est à la réalisation et la citation de ce soir est de Georges Sand. Gardez bien en vous ce trésor, la gentillesse. Sachez donner sans retenue, perdre sans regret, acquérir sans mesquinerie. La libre antenne de ce vendredi soir, c'est maintenant.
La libre antenne d'Europe 1. Valérie Darmon accompagne vos nuits.
Bonsoir Sandy.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir dans la libre antenne d'Europe 1 pour, je crois, tirer une sonnette d'alarme, ou en tout cas attirer notre attention sur un métier dont on parle très souvent dans la libre antenne, mais qu'on connaît peu. Il s'agit des accompagnants des élèves en situation de handicap et ils sont fondamentaux pour accompagner ces enfants. C'est bien cela, Sandy. C'est l'objet de votre appel ce soir hein, pour la libre antenne.
C'est ça.
Alors nous vous écoutons.
Eh bien en fait, je suis avec ma collègue et amie Caroline Lagadec, créatrice de l'association AESH en Lumière, parce que justement, on voudrait mettre en lumière nos élèves avant tout, leur qualité, leur fragilité. Et puis ben, notre rôle à nous, les accompagnants, qui sommes aujourd'hui invisibles aux yeux du grand public. Quand on dit AESH, la plupart des gens ne savent pas ce que ça signifie.
Effectivement.
Quel est notre rôle. Et pourtant, on est reconnu comme étant le deuxième corps de l'éducation nationale. On est en première ligne. Et puis on accompagne nos élèves au quotidien dans leurs difficultés, dans leurs apprentissages, dans l'apprentissage de la vie de
en général,
citoyens
ouais.
Et d'adultes quoi.
Ouais, parce que ce n'est pas que sur les bancs de l'école hein, que ça se joue, il me semble l'AESH. Moi en tout cas, je reçois évidemment des jeunes au cabinet et souvent ils sont suivis. Et aider surtout, j'ai envie de parler plutôt d'aide, hein, accompagner, oui. comme son nom l'indique, les accompagnants des élèves en situation de handicap par des AESH, et c'est beaucoup plus global qu'un suivi scolaire en fait, hein, le travail que vous faites.
Notre mission première est en classe, on les accompagne principalement en classe. Là, il y a une loi qui est passée pour élargir l'accompagnement sur le temps de pause méridienne, mais on fait partie de l'éducation nationale, donc c'est principalement en classe.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent, ils parlent de vous comme des référentes, des références, des référentes, des référents. Souvent, ils vous prennent pour référent. Vous n'avez pas remarqué ça dans votre pratique ?
Ben, c'est-à-dire qu'ils comptent énormément sur nous, les élèves, forcément. On est vraiment très proches d'eux. Maintenant, est-ce qu'on pourra justement être connus comme des référents et des repères vraiment avec un statut bien défini par rapport à l'éducation nationale? C'est ce pourquoi on se bat, quoi, aujourd'hui.
Ah oui, voilà, parce que eux le vivent comme ça, en tout cas. Il y a souvent une approche, oui, une approche même presque thérapeutique. Et d'ailleurs, moi, je parle que de mon expérience, et elle est toute petite, hein, dans ce domaine. Mais souvent, j'ai remarqué que ils gardent des contacts avec leur AESH.
Oui, complètement. Enfin, pour la plupart, on a des années d'expérience, et c'est vrai que quand on écoute la majorité d'entre nous, on garde contact avec les élèves qu'on accompagne, étant donné que normalement on n'a pas le droit d'avoir des contacts avec les familles pendant qu'on les accompagne. Souvent, une fois que nos missions sont terminées avec certains élèves, alors bien sûr, on les accompagne de la maternelle jusqu'à la terminale du lycée.
C'est long, hein. C'est des années qui comptent, fondamentales.
Charnières. Tout à fait. Et donc, on essaie de les amener au mieux dans la vie active, dans leur future vie professionnelle. Mais pour beaucoup, on garde des contacts, et c'est vrai que de voir comment ils ont évolué après notre accompagnement, est-ce qu'il y a des études après bac, qu'est-ce qu'ils font comme métier, comment ils s'épanouissent au quotidien. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'important pour nous, et c'est peut-être la seule chose qui nous fait continuer à se battre, en fait, pour eux, et qui nous donne la motivation de continuer.
Oui, parce que vous avez parlé d'élèves au départ, donc je poursuis sur les élèves ou les petits patients en ce qui me concerne. Mais c'est vrai que ils se disent très souvent, quand ils arrivent au cabinet ou même lorsqu'ils sont suivis par des AESH, ils se disent différents, ils se vivent différents. Ouais. Et vous les aidez vraiment à travailler cette différence, à l'accepter et en faire souvent une force.
Complètement, parce que on appelle cela l'école inclusive. Et en fait, on a été créés pour leur permettre d'être maintenus dans une scolarité ordinaire, entre guillemets. Et donc, il n'y a aucune raison qu'ils se sentent différents des autres élèves. Ce sont des jeunes qui ont un potentiel énorme, qui ont juste des difficultés et qui ont besoin d'une béquille, entre guillemets, pour pouvoir y arriver. Et nous, on a ce rôle de béquille, mais on est vraiment multicasquette, en fait. Quand on échange avec des éducateurs spécialisés, ils nous disent, mais en fait, vous faites le même travail que nous. Et on a une relation avec nos élèves qui est tellement intense qu'on est à la fois leur ami, on est à la fois éducateur spécialisé, on peut être psychologue, on peut être deuxième maman ou papa, ouais, on peut être meilleur ami.
Vraiment comme des membres de la famille presque, hein, ou dans les amis, oui, dans le cercle amical.
Oui, complètement. Et puis, c'est vrai que nous, on travaille avec de l'humain. Je veux dire, on peut pas être indifférent non plus. On en suit certains pendant plusieurs années. Il y a un lien qui se crée. On s'attache à eux. On s'attache à leur bien-être, à leur réussite, et surtout à ce que eux se sentent bien. Ils se voient évoluer comme n'importe quel autre enfant, peu importe leurs difficultés. Il faut qu'ils arrivent à avancer. Il faut qu'ils arrivent à être autonomes. Et notre rôle, il est là. Il est vraiment essentiel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a créé l'association avec Caroline, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, mais on est qui, nous, aux yeux des gens? Qu'est-ce qu'on représente? Est-ce que les gens connaissent notre métier? Est-ce que les gens se rendent compte de l'importance qu'on peut avoir dans la réussite scolaire, en tout cas, et peut-être certainement sociale aussi, de ces jeunes élèves qui sont un peu plus en difficulté que les autres.
Oui, vous êtes des pierres angulaires. Moi, je le sais parce que j'entends parler de vous souvent, mais c'est vrai qu'aux yeux du grand public, pas suffisamment. C'est certain, parce qu'à part les familles concernées et les élèves concernés, ou les enfants concernés, hein, ou adolescents, eh bien, les autres ne le savent pas, en fait.
Non. Après, on est le pays des acronymes. Hein.
Ça, c'est
toujours compliqué. C'est toujours compliqué, mais c'est vrai que nous, en fait, on voudrait que les gens sachent ce que veulent dire ces lettres AESH, et à travers quatre lettres, l'immensité de la tâche et surtout surtout un peu de reconnaissance aussi, parce qu'aujourd'hui si on regarde par rapport aux politiques, enfin je veux dire, l'école inclusive, elle va avoir 20 ans et en 20 ans ça a plus beaucoup de sens tel que c'est mené, et on a l'impression vraiment de bâcler nos accompagnements parce qu'on a de moins en moins de moyens, on nous donne de moins en moins de moyens, et c'est juste pas entendable pour nos élèves, pour leurs familles, parce que c'est tellement difficile pour eux d'arriver à obtenir l'accompagnement pour leur enfant qu'on peut pas aujourd'hui rester en disant on laisse faire, on va voir ce que ça donne. Et en fait, non, parce que ça se dégrade d'année en année. Nous aussi, on est sous le coup des économies qu'il va falloir faire.
Les coupes budgétaires.
Et voilà, oui. Les coupes budgétaires.
Comme l'hôpital public dont je parlais la semaine dernière. Voilà. Encore une fois.
Et pour nous, c'est juste insupportable que les économies se fassent sur les jeunes les plus faibles, en fait.
Oui, comme sur les patients, les plus faibles aussi, les plus fragiles, évidemment. Hein, la médecine à deux ou trois vitesses maintenant. Comment on peut bénéficier de vos services, justement? C'est quoi les démarches? Qui a droit aux AESH? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, là aussi. Hein.
Et en fait, c'est aux parents de remplir un dossier de demande auprès de la MDPH, la maison des personnes handicapées, et donc c'est un dossier qui est très fastidieux à remplir. Il faut énormément de certificats médicaux, énormément de papiers. La MDPH croule sous les demandes, si bien qu'aujourd'hui on est rendu à environ 6-7 mois de délai de traitement de dossier. Et une fois qu'ils ont enfin la réponse positive, quand c'est positif, le gros souci, c'est après que leur enfant se voit accompagné. C'est encore un parcours du combattant. Parce que, encore une fois, les coupes budgétaires font que les recrutements sont gelés. Aujourd'hui, on est à pas loin de 490 000 élèves notifiés MDPH, donc qui ont droit à un accompagnement. Et on n'est que 140 000 AESH en France, quoi.
Ouais, sur toute la France, hein.
Sur toute la France, ouais.
C'est pas
donc
beaucoup,
c'est compliqué,
hein.
parce qu'il n'y a pas assez d'AESH, parce que beaucoup de familles se voient obligées de garder leur enfant à domicile. Ils ne sont pas scolarisés parce qu'ils n'ont pas d'AESH. Donc c'est un bouleversement pour eux, pour les enfants en premier, parce que il y a aucune raison qu'ils n'aient pas le droit à une scolarité, en fait. C'est horrible pour les parents qui doivent modifier leur vie, soit une réduction de travail, soit un arrêt complètement d'un des deux parents, d'une vie professionnelle. Enfin, c'est tout un chamboulement, et on est en 2025, quoi.
Et sans compter que ça créerait des emplois aussi, hein. De recruter, hein. Beaucoup de personnes seraient aptes, hein. Je pense aux art thérapeutes, par exemple, qui sont à la fois thérapeutes et qui travaillent avec.
Oui, mais en même temps, aujourd'hui, cette activité n'est pas attractive. Enfin, je peux même pas vous dire métier, puisqu'on n'a pas de statut reconnu. Donc, on se bat pour avoir un statut. Mais aujourd'hui, c'est pas attractif du tout. C'est complètement déshumanisé. On ne parle pas du salaire, forcément. Personne n'a envie de travailler pour 900 euros par mois, quoi.
Ah, c'est 900 euros par mois.
Voilà.
Pour suivre un seul enfant.
C'est un 24 heures. Non, oh non.
Non.
Pour suivre. Écoutez, ça dépend des besoins, ça dépend de plein de critères, mais je vous avoue que depuis la rentrée 2024, c'est effrayant, en fait.
900 euros par mois pour suivre plusieurs enfants.
Ouais, en moyenne, c'est 3-4 enfants
sur un même site. Ah non, sur plusieurs établissements. Donc il y a aussi cette difficulté à rejoindre tous les établissements.
Tout à fait. Tout à fait, c'est très compliqué.
C'est quand même,
c'est aussi le fait que c'est un 24 heures. Non, c'est un 24 heures imposé, quoi. 24 heures semaine imposée, donc on a un temps partiel imposé, donc bien sûr c'est ce qu'on nous répond à chaque fois qu'on réclame un meilleur salaire. On a un temps partiel, ouais, c'est vrai, on a un temps partiel.
Mais vous pouvez demander un temps plein, si vous le souhaitez. pouvez cumuler. Non, c'est que 24 heures.
Non, parce qu'il il y a eu par le passé des contrats allant jusque 32 heures, mais il n'y en a plus. Maintenant, c'est du 24 heures maximum. Et ils estiment que 24 heures, c'est un temps plein.
C'est incroyable.
Parce que si vous exercez dans le premier degré, vous regardez la quotité horaire sur la semaine, vous ne pouvez pas faire plus de 24 heures. Donc ils estiment que c'est un temps plein.
C'est quand même...
Et c'est très compliqué. Ouais. C'est très très compliqué. Et là, on est rentré dans une spirale infernale avec ces nouvelles coupes budgétaires où les recrutements sont gelés, où les notifications tombent. Tous les mois, il y a de nouvelles notifications qui tombent. Donc, des enfants en plus à accompagner et toujours pas plus d'AESH. Donc, on joue à Tetris, en fait. Nos emplois du temps changent en permanence. Nos affectations changent en permanence. Et on nous envoie, on est devenu malléable à souhait, en fait.
Et en plus, au détriment, sans doute, hein, j'imagine, même si je sais que vous êtes extrêmement investi, des enfants. Parce que quand on est toujours sous pression, qu'on est tout en train de bouger, qu'on est toujours pressé, évidemment, le travail s'en sent.
C'est tout à fait ça. Et ce sont les premières victimes de ce système, parce que pour faire des économies et ne pas recruter, si vous voulez, c'est assez complexe comme situation. C'est-à-dire que la MDPH, selon la pathologie de l'enfant, va octroyer une notification d'aide qui est soit individualisée, soit mutualisée. Et le piège, il est là. Et c'est pour ça qu'on se bat aussi. Parce que le petit mot mutualisé ne parle à personne. Même les parents ne savent pas ce que cela signifie. Et en fait, c'est là où est toute la nuance. C'est-à-dire qu'une notification individualisée, l'élève va se voir attribuer un nombre d'heures d'accompagnement par semaine qui est indiscutable. L'enfant doit avoir son accompagnant ou accompagnante ce nombre d'heures dans la semaine. C'est pas négociable, on peut pas faire autrement. En revanche, quand la MDPH octroie une aide mutualisée, ce petit mot signifie que l'accompagnement, selon les besoins et les moyens, peut aller de 1 heure à 6 heures par semaine. Donc vous avez des enfants qui, dans certaines académies, dans certains établissements, il y a beaucoup d'enfants à accompagner, et comme il n'y a pas beaucoup d'AESH, eh bien on va décider que tel enfant aura 1 heure, l'autre en aura 2, l'autre en aura 4, l'autre en aura 6. Il y en a un qui avait 9 heures, ben on va descendre à 6 parce qu'il faut libérer 3 heures pour aller accompagner un autre enfant dans un autre établissement.
C'est très arbitraire tout ça. C'est très très arbitraire.
Et aujourd'hui, on a des enfants qui sont accompagnés 1 heure par semaine. Peu importe la matière enseignée sur cette heure. Ça peut être de l'art appliqué, ça peut être n'importe quelle matière. Et c'est juste pas possible.
Donc ça n'a aucun sens, en fait, si je vous ai...
Ça n'a plus aucun sens. D'où la naissance de notre association. On se bat contre ça.
Vous venez de la créer, l'association, Sandy ?
Alors, en fait, on est parti, en février dernier, on est parti d'un collectif. On était 7-8 AESH dans l'établissement où on exerçait avec Caroline. Et il y a eu une énième grève. Et là, on s'est dit, mais c'est pas possible, stop. Nous, avec 900 euros par mois, je défie quiconque de faire grève régulièrement. Le moindre euro est important.
Oui.
Donc on ne peut pas. Et ça, tout le monde, les gouvernements successifs le savent. Et donc, forcément, on ne fait pas grève. Déjà pour une raison financière. Et deuxièmement, avec tous les mouvements sociaux qu'il a pu y avoir depuis quelques années, on sait très bien que d'aller marcher, crier dans la rue, ça ne fait ni chaud ni froid à nos politiques aujourd'hui. Donc autant qu'on use notre temps à bon escient et qu'on reste auprès de nos élèves qui, eux, ont besoin de nous. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution. Il faut absolument qu'on arrive à se faire entendre, à se rendre visible et à faire bouger les choses. On peut pas continuer comme ça, ni pour nos élèves, ni pour leur famille, ni pour nous. C'est plus vivable. On est en souffrance, on est tous en souffrance. Donc on a réfléchi énormément et en fait on est parti d'un collectif. Et on a rédigé un courrier qu'on est allé, on s'est dispersé les courriers, et puis pendant un week-end, on est allé les déposer dans les boîtes aux lettres de tous les établissements de notre PIAL, encore un acronyme.
Oui, qu'est-ce que c'est?
Donc c'est les pôles inclusifs d'accompagnement localisé. C'est-à-dire que c'est un secteur géographique sur lequel on peut être envoyé à tout moment pour exercer dans tous les établissements de cette zone géographique.
Mais votre périmètre,
c'est
en fait.
C'est assez vaste. Hein. Votre voilà.
Périmètre,
c'est assez vaste, ouais. Hein, il faut le savoir. Ah ouais. Voilà.
C'est-à-dire, par exemple, quand vous me dites c'est assez vaste, c'est toute l'Île-de-France, par exemple.
Non, quand même pas.
Ah, faut pas exagérer, pas. D'accord. Parce que après, rajouter une strate pour quelque chose d'incohérent, on est assez champion en France aussi.
On est basé en Bretagne, mais enfin, ça regroupe plusieurs. Il y a trois communes qui sont assez vastes hein, et regroupement de communes, on va dire. Et donc, on l'a pris un week-end et on est allé distribuer cette lettre à l'intention des collègues AESH dans toutes les boîtes aux lettres des établissements du PIAL. Et en fait, c'était un appel à nous rejoindre et à discuter ensemble, réfléchir ensemble sur une façon d'agir. De tous les ça a plutôt bien marché.
Oui. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Est-ce qu'il y a eu des avancées? Parce que c'est souvent le terrain qui fait avancer les choses. Hein.
Oui, voilà. Mais en fait, c'est comme ça qu'on voyait les choses à la base. Et donc, oui, on a été contacté par plusieurs collègues. En parallèle, on a aussi pu constater que certaines n'avaient pas eu cette lettre. Ça a été mis à la poubelle avant même d'être mis à la lecture. Et bon, bref, on a réussi comme ça à toucher pas mal de collègues. Et puis on a contacté la comédienne Lucie Lucas qui habite pas très loin de chez nous et qu'on connaît pour ses prises de position et ses engagements dans certaines causes. Et on l'a rencontrée et on a discuté et elle a été très touchée tout de suite et par tout ça et a accepté d'être la marraine de notre collectif. Donc suite à ça, on a été invité sur le plateau du 19-20 de France 3 Bretagne, en fait, qui avait fait un petit reportage sur les AESH et l'école inclusive, et on a été invité avec Lucie sur le direct pour conclure ce petit reportage. Et donc forcément, quand on commence à parler dans les médias,
oui.
Voilà, ça a fait venir beaucoup de monde, mais cette fois-ci de toute la France. Ce qui était au départ presque un pari nous a un peu pris de court finalement, mais on s'est dit allez, on y va. Il faut vraiment qu'on y aille, qu'on bouge les lignes et on va voir comment ça se passe. Et donc très très vite ça a pris de l'ampleur. On a créé donc des antennes régionales partout en France où ils se sont portés volontaires, des délégués régionaux. Alors on fonctionne avec des groupes WhatsApp dans chaque région de France et on a un groupe administrateur France où là on fait remonter toutes les remarques, toutes les idées, etc. Et il y a beaucoup beaucoup d'échanges avec tout le monde. D'ailleurs on remercie tous les délégués régionaux qui font un travail de fou. Ils sont vraiment super.
Et Sandy, ça fait combien de temps tout ça? Depuis combien de temps?
Et tout ça depuis le 1er février de l'année dernière, en fait.
Ça fait même pas un an. Et est-ce que des choses concrètement ont changé? Je dis ça parce que ça peut donner de l'espoir aux gens qui ont envie de faire bouger les lignes. Moi, par exemple, j'ai passé 15 jours aux urgences de l'hôpital public. J'arrête pas de m'interroger en me disant, alors dans ces cas-là, la seule voie, c'est la politique, quoi, finalement. Mais
Oui, ça a changé parce qu'en fait, si vous voulez, du coup, ça a tellement pris d'ampleur qu'avec Caroline, à un moment donné, on s'est dit, waouh, il faut qu'on structure, il faut qu'on fasse les choses bien, parce que là, ça part loin, et tant mieux. Mais il faut vraiment qu'on ait un cahier des charges, il faut qu'on mette les choses vraiment à plat et que ce soit structuré. Donc, le 14 mai dernier est née l'association. Lucie est la présidente d'honneur,
oui.
Et toujours la marraine, hein, forcément, elle y croit vraiment beaucoup. Et si vous voulez, nous, notre façon, alors après discussion hein, avec tout le monde, nous, notre façon de voir les choses et notre ligne de conduite, c'est que, contrairement peut-être à beaucoup de mouvements, on ne veut pas de récupération politique ou syndicale. Justement, c'est le terrain qui est important. Et ce qu'on voudrait, c'est être entendus, nous, les hommes et femmes de terrain, pour vraiment remonter les informations en direct, quoi. Oui. C'est au jour le jour.
On passait par l'expérience, en fait, par le vécu.
Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Alors, on n'a rien contre les syndicats, attention, hein, que les choses soient bien claires. Ils font un boulot de fou. Ils sont très compétents. Quand on est d'ailleurs, nous, les premiers à renvoyer des collègues vers les syndicats quand c'est nécessaire, parce qu'il y a des... Il y a des problèmes individuels qui méritent d'être pris en charge par les syndicats et qui vont au-delà de nos compétences à nous. Hein. Nous, on est aussi à ESH. Voilà. La politique, c'est simplement qu'on ne veut pas de récupération parce qu'on estime que c'est une cause qui mérite qu'il y ait des choses qui se fassent transpartisanes. C'est une cause qui mérite l'unanimité, peu importe les couleurs politiques. Il faut vraiment que chaque groupe politique se retrouve dans la cause, en fait. Mmh. Et donc...
c'est un message qu'on pourrait dupliquer, hein.
Tout à fait, oui. Tout à fait. Et puis encore une fois, on suit la lignée du collectif dans le sens où on veut éviter de passer par les grèves. Et donc la question s'est posée, comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, on a décidé de fonctionner par le biais d'actions de plus ou moins grande ampleur et de médiatiser un maximum. Parce qu'aujourd'hui, c'est une évidence, la médiatisation, les gouvernements n'aiment pas parce qu'il y a des vérités qui sortent. Mais si on veut que ça bouge, il faut que les vérités sortent. C'est ce qu'on pense. Bien sûr, dans la bienveillance, dans le respect, parce que ça nous caractérise, nous tous, les AESH. Et donc on monte des actions, on en discute sur les différents groupes, on demande des idées éventuelles, on prépare les choses ensemble, on discute tous ensemble. Et donc on a eu une première action qui a été l'envoi d'un courrier, une lettre type envoyée à la ministre de l'Éducation nationale. Qui à ce moment-là était Madame Oudéa Castéra, mais étant donné que c'est un peu le jeu des chaises musicales,
oui,
entre temps,
j'allais vous dire laquelle.
Voilà, donc c'était adressé à Madame Oudéa Castéra. Finalement, c'est d'après qu'il l'a reçu. mais bon, c'est pas grave. Et en fait, il y a des centaines de lettres identiques qui sont arrivées au ministère.
Donc pour l'instant, vous attendez. Un mouvement éventuel, une réponse éventuelle.
Non, on a eu une réponse, mais une réponse comme on en a eu de Monsieur Macron, comme on en a eu de.
C'est-à-dire qu'ils prennent en considération votre demande, mais qu'ils peuvent rien faire pour l'instant, c'est ça?
Non, pas du tout.
Ah bon?
Encore mieux que ça.
Alors, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que ils ont fait énormément de gestes et d'efforts envers les AESH depuis quelque temps, et qu'en fin de compte, ils sont très satisfaits des efforts qu'ils ont faits. Et en fait, c'est un petit peu, on en reste là. Merci, bonsoir. Mmh. Et nous, c'est pas comme ça qu'on l'entend. Donc, plus déterminés que jamais, parce que plus on nous dit stop et plus on va y aller, forcément, pour nos élèves, pour nous, pour leur famille. Là, on a mis en place, depuis les législatives, une opération, entre guillemets, qui est l'opération Rencontre ton député. Le but, c'est que, en fait, on a créé un dossier d'une cinquantaine de pages où on relate ce qui devrait se faire, comment ça devrait se passer, ce qui est la réalité, ce qu'on voudrait. Il y a des témoignages, il y a plein de choses.
Vous leur donnez les solutions, en fait.
Oui, on les amène à vouloir s'ouvrir à la discussion, en tout cas.
Ouais, c'est ça, à réfléchir.
Voilà, à réfléchir et surtout de se dire, l'idée c'était de se dire, en fait, il faut que un maximum, parce qu'on sait très bien qu'on ne les aura pas tous, hein, c'est compliqué, un maximum de députés aient ce dossier entre les mains, nous reçoivent et ne puissent pas une fois, et j'espère et j'en suis certaine avec Caroline donc, et puis tous les délégués régionaux et tous ceux qui sont engagés, qu'on va y arriver. Que notre histoire, notre combat soit débattu dans l'hémicycle et qu'aucun député puisse regarder ses pieds en disant on n'était pas au courant, on ne savait pas. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe.
Oui. Et puis surtout, on ne peut pas vous taxer de vouloir gagner de l'argent. Parce que ce n'est pas avec ce que vous gagnez
ça va être l'argument avancé, franchement. Bien sûr, il faudrait qu'on ait un mieux vivre aussi parce que c'est pas motivant.
Bien sûr,
franchement,
bien sûr.
On n'en vit pas.
Non, mais on entend bien dans votre discours que ce qui vous importe, c'est la scolarité, c'est l'apprentissage, c'est les avancées de ces 490 000 enfants qui ont besoin de ce service, en fait, qui est complètement méconnu, à part par les familles qui en bénéficient.
Complètement. Et encore, elles en bénéficient, mais non pas forcément.
Oui, si c'est une heure par semaine, ça sert pas à grand chose.
Voilà, ouais, ils en sont pas forcément, parce qu'ils sont pas informés, hein. Eux, ils voient juste mutualiser. Et en fait, ils savent pas ce que ça veut dire pour eux. Et on le conçoit complètement. Ils doivent être tellement soulagés quand ils reçoivent la notification d'acceptation, de se dire que enfin leur enfant va avoir quelqu'un, que pour eux, c'est le plus important, et c'est normal.
Mais il faut voir dans quelles conditions, il faut voir combien de temps
et dans quelles conditions, tout à fait.
Et oui.
Parce que franchement, c'est compliqué.
Vous faites ce métier depuis combien de temps, Sandy ?
Moi, c'est ma 14e année. Caroline, c'est sa 17e année, je crois. Je suis même sûre. Avec Caroline et les délégués régionaux, par le biais de l'opération Rencontre en député, nous, on a la chance quand même aujourd'hui d'en avoir rencontré pas mal dans toute la France, que ce soit les délégués régionaux, que ce soit des membres, que ce soit Caroline
et moi. Et donc d'être entendu. Je vous propose, Sandy, on va faire une petite pause parce que Rudy Saada va faire le flash info dans quelques instants. Et après Rudy, on va recevoir Nadège aussi, qui est accompagnante des élèves en situation de handicap, justement, et qui va nous parler.
Fait partie de l'association.
Eh ben voilà, comme ça, vous serez deux à pouvoir tirer les sonnettes d'alarme. Et ce soir, sur Europe 1, ben, on vous remercie d'attirer notre attention sur ce statut des AESH. À tout de suite, Sandy.
Merci.
Et puis, chers amis, notez aussi qu'Isabelle Morisset vous donne rendez-vous chaque samedi de 17h à 18h sur Europe 1 pour Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, vous le savez, parce que je cite souvent Isabelle, tellement j'aime ce titre. Un entretien sans phare pour révéler les mille facettes de la vie de son invité. Et demain, elle va recevoir Amélie Nothomb pour son dernier livre, Le Japon éternel, voyage sous les fleurs d'un monde flottant, aux éditions Albin Michel. Ce sera donc de 17h à 18h.
Bonjour, c'est Sophie Davant.
Bonjour, c'est Laurent Mariotte. La grande famille Europe 1 vous souhaite une très belle année 2025. Et la santé.
Bonjour, c'est Stéphane Bern.
Europe 1 vous souhaite une très belle année 2025.
C'est Sonia Mabrouk.
Bonjour, c'est Thomas Hill.
C'est Valérie Darmont.
Bonjour, c'est Lénaïque Monnier sur Europe 1. On vous souhaite
une très belle année 2025.
Bonjour, c'est Pascal Pro.
Europe 1 vous souhaite une bonne année.
Bonne année.
Bonjour, c'est William Lémergie.
C'est Isabelle Morizet sur Europe 1.
Belle année 2025 sur Europe 1.
Bonjour, c'est Jacques Vendroux.
Bonjour, c'est Laurence Ferrari. Sur Europe 1, célébrons ensemble cette nouvelle année.
Bonne année.
Leclerc, bonjour.
Bonjour, c'est Sophie, votre boulangère Leclerc.
Ah Sophie, les galettes des rois sont arrivées?
Exactement, de délicieuses galettes à la frangipane pur beurre.
Je craque.
Surtout à 3,30€ la galette 6.